Radio Starbase.
Morning edition.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, on commence avec ce bras de fer en cours autour du Parlement britannique qui a fait sa rentrée aujourd'hui. Boris Johnson toujours décidé à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour aller jusqu'au Brexit. Sauf qu'entre-temps, il a perdu sa majorité. On essaiera de comprendre exactement ce que ça veut dire. Le bruit du monde, c'est celui des assiettes et des baguettes. Nous sommes au restaurant au Japon et on mange de la baleine. Amélie Perry nous parlera, elle, d'un système de notation hallucinant en Chine. 18h50, Julia Foyce, pas son genre dans le monde. On ira voir à quoi ressemble notamment les congés paternité en Autriche. 18h55, le monde à l'envers et Jean Marfour qui a comparé, puisqu'on y est aujourd'hui, les luttes contre les féminicides dans les pays qui nous entourent. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Sophie Péder.
Bonsoir.
Vous êtes chef du bureau de The Economist à Paris. À chaque fois qu'on a invité quelqu'un pour parler du Brexit, nos questions sont parfois restées sans réponse. Notez que vous avez le droit d'écarter les mains en signe d'impuissance parce que chaque jour apporte son lot d'incertitudes et aujourd'hui encore, est-ce qu'on peut faire d'abord un point à l'heure où on se parle? Les députés sont rentrés, l'un d'eux a fait défection, c'est d'ailleurs toujours assez drôle à observer chez vous parce qu'il change littéralement de place au Parlement. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Écoutez, on va voir ça ce soir parce qu'il y a un groupe de députés à la fois du Parti conservateur, donc le parti du Premier ministre, et de l'opposition qui essaye de contraindre, de tenir un vote ce soir pour contraindre Boris Johnson de écarter la possibilité d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Et donc, ils souhaitent de contraindre le Premier ministre à demander aux autres partenaires, les 27, une autre extension. Et on va voir ce soir si ça passe ou pas, parce que c'est extrêmement, extrêmement serré. On sait que cet après-midi, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, il a perdu sa majorité. Donc, et il y a quand même des députés des deux côtés qui vont voter éventuellement pour et contre. Donc ça divise les deux partis.
Il en a quand même un certain nombre qui ont déjà dit que ça ne leur plaisait pas. Il les a même déjà menacés de les expulser, de les exclure du Parti conservateur s'ils votaient contre lui. Le vote a lieu à quel moment? Est-ce qu'on sait ça ou pas?
Ça sera autour de 21h, 22h ce soir au Royaume-Uni. Et on peut avoir un vote contre le gouvernement de la part des anciens ministres, et quand même, c'est pas juste des députés, des frondeurs, c'est vraiment des anciens ministres, des personnalités fortes au Royaume-Uni. Donc c'est des scènes assez incroyables qui auront lieu ce soir.
Donc ça veut dire qu'on peut contraindre Boris Helsine de renégocier, en quelque sorte, d'aller demander un délai. Lui, on va revenir à ce que ça peut vouloir dire derrière. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la deuxième fois que je fais ça, c'est incroyable. Boris Johnson de demander un délai. Il vient de très très loin, ce Boris Helsine. Boris Johnson, du coup, je suis perturbée, qui dit quand même que il y aurait moyen de discuter de quelque chose lors du prochain sommet européen le 17 et 18. Il bluffe.
Oui,
est-ce qu'on est d'accord?
C'est la question. Cet après-midi au Parlement britannique, on a vu des déclarations invraisemblables de la part du Premier ministre britannique. Il a dit qu'on fait des progrès, avec des autres partenaires européens. Quand on parle ici à Paris ou à Berlin ou à Bruxelles, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas la première fois qu'il exagère, qu'il essaie de présenter du progrès qui n'existe pas. Et donc, Boris Johnson, il faut savoir, il est là et sa légitimité, il n'a pas été élu, mais sa légitimité reste sur le fait qu'il va sortir le Royaume-Uni n'importe comment, n'importe sur quelles conditions, le 31 octobre, do or die, comme il dit en anglais. Donc, peu importe la situation ou les conditions, et même si c'est une sortie sans accord, c'est ça. Donc il est obligé politiquement de le faire.
Avant de revenir sur ces conséquences-là, sur les probables élections qui auront lieu donc avant cette date-là, juste une curiosité, la fameuse suspension du Parlement, est-ce qu'elle change? Est-ce que quelque chose change dans la mesure où Boris Helsine a perdu sa majorité et que peut-être... mais c'est pas vrai! Que Boris Johnson, allez savoir, que Boris Johnson a perdu sa majorité et que potentiellement un vote contre lui va être voté cet après-midi qui le contraindra à un accord sur le Brexit. Est-ce que ça change quelque chose à la suspension du Parlement? Parlement, ou pas du tout?
Non, mais ce qui change avec cette suspension, c'est le fait qu'il y a maintenant très très peu de temps pour les députés dans l'opposition et les rebelles de le contraindre de passer cette législation, parce qu'ils doivent le faire aujourd'hui, demain, et il reste très très peu de temps.
C'est ça, il y a très peu de temps, mais cette suspension aura lieu quand même, quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé aujourd'hui ne change pas du tout. Alors, si effectivement Johnson a un vote contre lui, il peut décider, et c'est ce qu'il fera, de convoquer des élections.
Il doit demander au Parlement de lui donner le droit de tenir des élections anticipées, parce que normalement on a des élections maintenant tous les 5 ans, et c'est une loi qui a été passée pour justement empêcher les premiers ministres de décider comme ça. Donc il doit demander au Parlement. Il doit avoir 2/3 des députés qui votent pour tenir des élections législatives.
Et on a bien entendu Jeremy Corbyn cet après-midi, qui lui aussi est dans son bluff personnel, mais qui dit qu'il est confiant qu'on pourrait aller aux élections. Est-ce que c'est pas exactement ce que voulait Boris Johnson au fond? Est-ce qu'il veut pas y aller à ces élections pour conforter une majorité qui, de toute façon, à un homme près, n'était pas assez confortable? Est-ce qu'il n'est pas directement en train de faire ce qu'il voulait faire?
C'est une possibilité, mais il faut savoir que même si dans les sondages il reste dans une position assez forte, c'est pas du tout évident qu'il va gagner une majorité absolue. Et on peut éventuellement avoir la même situation, c'est-à-dire pas de majorité. Et donc même pour Boris Johnson, c'est un pari. C'est un homme qui aime bien les paris, mais c'est un pari. Si jamais c'est vraiment sa stratégie, c'est un gros pari pour lui.
C'est un gros pari, c'est un grand bluff. Tony Blair, c'était il y a très peu de temps, a dit attention, l'élection est un piège à éléphant. C'est une expression de chez vous qui est tendue par le Premier ministre. Est-ce que potentiellement Jeremy Corbyn et d'autres ne sont pas tombés dans ce fameux piège à éléphant?
Peut-être, et c'est pour ça que le Parti travailliste hésite aussi. Et c'est difficile pour eux d'être vraiment derrière l'idée d'une élection, parce que Jeremy Corbyn pourrait sortir affaibli aussi. Tout est extrêmement incertain. On n'a pas de prévisibilité, même pour le vote ce soir, ça va être extrêmement serré pour savoir si ce groupe de frondeurs et de l'opposition va arriver à contraindre le gouvernement à demander une extension et sortir de no deal Brexit. Mais c'est ça l'essentiel. Il faut vraiment comprendre que le 31 octobre, tout ce que veut le Premier ministre, de sortir le Royaume-Uni de...
Quelles que soient les conditions, il veut que de toute façon, ce soit le 31,
et
comme il l'a déjà
danger,
dit.
Le scénario noir, c'est que le Royaume-Uni sort sans accord. Et là, c'est vraiment, c'est extrêmement dangereux de jouer avec cela. Mais on est là, c'est une dernière tentative de la part des députés, extrêmement respectés, ces députés qui essaient de le contraindre, de le reporter, mais c'est l'enjeu est immense.
Les conservateurs qui ne le suivent pas sur un Brexit dur, sur un Brexit sans accord, sont-ils assez hardis quand même pour le faire tomber, c'est-à-dire voter, là pour le coup, s'il y avait des élections, contre l'éventualité d'un Boris Johnson à nouveau Premier ministre? Est-ce que leur hardiesse peut aller jusque-là?
C'est difficile à dire, mais je pense que là, il y a tellement de motivations différentes parmi les députés qui souhaitent contraindre Boris Johnson à reporter...
Est-ce qu'on sacrifie sa majorité ou est-ce qu'on sacrifie le Brexit? C'est ça qu'ils ont en tête quand même.
C'est exactement ça. Mais il faut pas oublier que Boris Johnson a été nommé pour une chose, c'est de sortir le Royaume-Uni. Et il présente ça comme une espèce de libération. Mm-hmm. C'est difficile à comprendre quand on est à Paris. Mais c'est aperçu comme cela. Et je pense que l'autre chose, il faut comprendre, c'est que chaque jour, chaque déclaration, il essaie, je pense, de préparer le terrain pour rendre coupables les autres. Qui sont les autres? Soit les 27, soit les Français, c'est un cible très facile dans la politique britannique, soit le Parlement, soit l'opposition, soit les députés. Donc c'est là où on est en train de voir cette préparation de terrain pour rendre l'autre coupable si jamais le Royaume-Uni sort dans une situation catastrophique.
Aux yeux des Britanniques, ce Parlement, est-ce qu'il y a une sorte de retour en grâce désormais parce qu'il est en train de lutter là contre un Brexit fort? Parce qu'on a quand même beaucoup entendu ces derniers temps que que c'était aussi en partie à cause de ce Parlement qui a toujours voté non, qui n'a jamais dit aider Theresa May à aller jusqu'à un accord qui pouvait être à peu près négocié. C'est aussi parce qu'il a toujours dit non, donc on en est là aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a une sorte de retour en grâce du Parlement britannique aujourd'hui ?
Je ne vois pas comme ça. Honnêtement, je pense que le problème au Parlement britannique, c'est qu'il n'y a jamais eu une majorité pour quelque chose. Il y a toujours tellement de majorités contre, contre le Brexit, parce qu'il faut savoir que même si 52% de la population britannique a voté pour le Brexit, les parlementaires sont hostiles. Donc ils sont hostiles au Brexit. Et forcément, à cause de cela, ils sont hostiles au Brexit ou à l'accord négocié par Theresa May. Donc moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'ils n'ont pas aidé Theresa May à passer son accord, parce qu'ils n'ont pas d'accord avec le Brexit dans sa majorité. Mais le problème, c'est qu'on trouve à gauche, à droite, dans le Parti travailliste et dans le Parti conservateur, des divisions profondes. Et c'est ça qu'on est en train de voir pour la première fois, une coalition de ceux qui sont opposés au Brexit et opposé surtout à un no-deal Brexit, de se forger. Et c'est ça qui est intéressant. Donc je vois les choses un peu différentes.
Et Boris Johnson, qu'est-ce qu'il peut ramasser s'il perd un certain nombre de ses conservateurs ? Sur qui peut-il compter pour quand même accéder à une majorité ? Est-ce qu'il a une espèce de poche de réserve, on va dire ?
Non, je pense que c'est précisément un de ses problèmes. Et c'est pour ça que c'est difficile de prévoir le résultat d'une élection législative éventuelle. N'oublie pas aussi qu'il dépend des députés du parti unioniste de l'Irlande du Nord. Et le cœur du problème de Brexit, un des problèmes, c'est la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande.
Et d'ailleurs, il y va, Johnson. Il y va tout de suite.
Il va lundi.
Et pour leur dire quoi, en fait, honnêtement?
C'est la question. C'est à chaque fois que la Commission européenne demande au gouvernement britannique actuel quelle est l'alternative à la solution de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, parce que Boris Johnson prétend avoir une autre solution que les solutions négociées par Theresa May. Pour l'instant, il n'y a rien sur la table, il n'y a rien de concret. Il était demandé plusieurs fois cet après-midi au Parlement britannique, le Premier ministre, par les députés de l'opposition, quelles sont les propositions que vous avez ? Et il a répondu, oui, mais on est en train de préparer nos propositions. Pour l'instant, on n'a rien vu. On va voir ce qui se passe lundi, si à ce moment-là, il arrive à mettre quelque chose de concret sur la table. Mais pour l'instant, il n'y a rien.
Est-ce qu'il décide seul, ce Boris Johnson ? Est-ce qu'il y a du monde derrière lui dans son gouvernement, ou est-ce que c'est une gouvernance où finalement il est tout seul avec l'un de ceux qu'il suit de plus près, et puis c'est à peu près tout en fait? Ou est-ce qu'il y a vraiment...
Il n'est pas tout seul, parce qu'il a une équipe, une petite équipe très étroite autour de quelques personnages.
C'est combien de personnes en fait autour de lui?
Autour de lui,
il y a combien de personnes qui gravitent?
Mais surtout, il n'est pas seul dans le pays. Et donc il est plus en phase. Il ne faut pas oublier, même si à titre personnel, je regrette la position de le Royaume-Uni. Il faut pas oublier qu'il n'est pas seul dans le pays. La plupart des Britanniques souhaitent une sortie de l'Union européenne, mais ils ne souhaitent pas un no-deal Brexit. Et ça, la distinction, c'est important.
Ou souhaitent aussi qu'on en finisse, non, Sophie Bédard? Parce qu'on a aussi beaucoup entendu ça, qu'on en finisse maintenant avec cette histoire-là.
Moi aussi, honnêtement. Mais en même temps, je comprends tout à fait la motivation de ces députés qui essaient à la dernière chance d'empêcher une espèce de sortie no deal. Et ça, il faut reconnaître, ils ont le droit, c'est une démocratie parlementaire, en principe, le Parlement est souverain au Royaume-Uni, il faut respecter leur droit d'essayer d'empêcher une catastrophe. Et donc, même si on aimerait tous arrêter de parler du Brexit, c'est un moment très très important, il faut le reconnaître.
Ah bah vous n'avez pas fini, surtout vous, Asie Économiste, j'imagine, parce que après, quand il y aura Brexit, quelle que soit sa forme, vous aurez beaucoup à faire. Vous l'avez dit, les Britanniques ont voté pour le Brexit en majorité, ceux-là s'impatientent. Il y a ceux derrière qui ont l'impression aujourd'hui qu'on est dans un déni de démocratie, notamment très récemment avec la suspension de ce Parlement. On a beaucoup parlé déjà des Anglais qui désormais avaient beaucoup de mal à se parler entre eux. Est-ce que cet épisode-là accentue accentue encore ces divisions. Est-ce que la réparation sera encore plus difficile aujourd'hui où vous en êtes, vous, les Britanniques?
Je pense que c'est une réalité, c'est triste. Ça déchire les familles, des couples, des amis. C'est un sujet omniprésent au Royaume-Uni et très sensible. Et je pense que ce qui se passait ces dernières semaines, ça, effectivement, ça a aggravé la situation. Mais on n'est pas encore, c'est pas encore terminé.
Ah ben non.
Et si le jour, le 31 octobre, le Royaume-Uni sort sans accord, là, on entre dans une autre phase bien plus grave.
Et vous, sincèrement
Oui, je suis triste. Honnêtement, je suis triste. C'est quand même mon pays d'origine. Je suis née au Royaume-Uni. J'ai la nationalité britannique et ça me chagrine. Je peux vous dire ça à titre personnel. C'est extrêmement traumatique de vivre cela.
Même ici, depuis la France.
Mais oui, bien sûr, parce que la France.
Peut-être encore plus.
On est en Europe. Nous, Européens, on regrette vraiment le Brexit.
Eh ben écoutez, ce sera l'occasion de revenir parce qu'on n'a pas fini. Les chamboulements de cette démocratie britannique ne sont pas terminés. Le rendez-vous n'est pas forcément au 31 octobre. Il peut y en avoir d'autres avant. On le suivra avec beaucoup d'intérêt. Sophie Péder, merci beaucoup. Vous remarquerez que j'ai marqué Johnson en gros sur ma feuille. Et je vous remercie de votre passage d'un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Et la suite, c'est le bruit du monde. Ça se passe avec un steak et du sashimi de baleine, figurez-vous, dans les restaurants japonais. Amélie Perrier est là
en
aussi.
En Afrique du Sud, des violences xénophobes.
Et en cette lutte contre les féminicides, dans cette journée de lutte, mesdames et mesdames, Julia Foy, c'est là?
Oui, je suis là. Et je vous le fais à 700 euros, le congé paternité en Autriche.
Ça peut, eh ben, on verra ça dans un instant. Jean-Marc Four, juste avant 19h. Jean-Marc, bonsoir. Comparaison n'est pas raison, justement, sur le même sujet, mais quand même.
Oui, mais quand même. Si on veut vraiment lutter contre les violences conjugales, regardons chez nos voisins et en particulier en Espagne.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Tiens, voici ma déclaration. Super Duper Love et Justin sur France Inter.
すごいね。
âmes sensibles, s'abstenir. Nous sommes en cuisine et on prépare de la baleine, figurez-vous. Et oui, depuis le 1er juillet, le Japon a repris la pêche commerciale à la baleine, en s'affranchissant d'ailleurs d'un moratoire de la Commission baleinière internationale. Le Japon chasse désormais uniquement le long de ses côtes. Il n'ira plus harponner en Antarctique, c'est déjà ça. Mais qu'est-ce qu'on en pense au Japon ? Eh bien, c'est dans les cuisines des restaurants que Karine Nishimura a posé la question.
Il est 13h. Dans son restaurant au sous-sol d'un quartier d'immeubles de Tokyo, Mitsuo Tani ne sait plus où donner de la tête. Seul, à cuisiner derrière son comptoir, il enchaîne les steaks et sashimi de baleine, les deux plats préférés de sa clientèle bigarrée. Mitsuo Tani a 64 ans, dont 46 passés à cuisiner la baleine. Les 32 ans de moratoire de la pêche commerciale respectés par le Japon jusqu'à juillet dernier ne l'ont pas empêché de faire tourner sa boutique. Car ce n'est un mystère pour personne. Durant ces décennies, la chair de cétacés issue de prises scientifiques finissait sur les étals des poissonniers et dans les assiettes d'amateurs de cette viande dont Tani loue les vertus.
Je tiens ce restaurant de baleine à Tokyo depuis près de 9 ans. Mais avant, j'ai eu un établissement à Sendai pendant 23 ans.
Pour lui, la reprise de la pêche marchande ne changera finalement pas grand-chose, car il n'imagine pas un soudain boom de la consommation de viande de baleine.
Plus personne ne s'est vraiment lancé dans le métier pendant plus de 30 ans. Du coup, c'est difficile. Même si certains s'y mettent maintenant, ça prendra 30 ans pour qu'on atteigne un bon niveau. Certains abandonneront avant parce que c'est difficile. Mais l'important, c'est de faire goûter aux clients quelque chose de bon.
Tani se veut le garant d'une tradition. Il est de la génération de ceux que la baleine, importante source de protéines, a sauvé de la disette dans les années d'après-guerre.
La baleine, c'est la culture du Japon. Si on n'entretient pas sa culture, c'est la fin. Un pays qui a une telle culture alimentaire, on a beau lui dire d'arrêter, il n'abandonnera pas.
Plus jeune, Sumiko Koizumi, patronne d'un restaurant de baleines des pourtours de l'ancien marché aux poissons de Tsukiji, est beaucoup plus enthousiaste que son aîné Tani.
Grâce à la reprise de la pêche commerciale, il est certain qu'il va être de plus en plus facile de manger de la baleine. Du temps de la pêche scientifique, il y avait apparemment beaucoup de supermarchés et d'autres magasins réticents à proposer de la chair de baleine. Le fait qu'il soit désormais légal de pêcher des cétacés à des fins marchandes signifie qu'on a créé un environnement propice. De ce fait, plus de commerces essaieront d'en proposer et de ce fait, la consommation devrait augmenter. En tout cas, c'est ce que j'espère. D'ailleurs, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est maintenant, alors qu'on en parle beaucoup, c'est maintenant que nous devons agir.
Reste qu'il va falloir convaincre une clientèle, pas forcément très enthousiaste.
Je ne pense pas avoir vraiment l'occasion d'en manger. Si les pêcheurs de baleines sont vraiment désœuvrés, ils doivent proposer de nouveaux produits. Mais si tel n'est pas le cas, il est peut-être mieux de tenir compte de l'orientation suivie hors du Japon.
Kenta Yodono, représentant commercial de la société de pêche Kyodo, lui, se désole que son métier n'ait pas bonne presse hors du Japon.
Quels que soient les animaux, les tuer pour les manger, c'est cruel, forcément. Mais il est étrange que l'on s'en prenne seulement aux pêcheurs de baleines. D'ailleurs, les Japonais ont conscience qu'une vie a été prise pour les nourrir. C'est ce qu'ils expriment avec les expressions de reconnaissance systématiquement prononcées avant et après les repas.
Les Japonais du secteur sont d'autant plus chagrinés d'être brocardés que selon eux, les quotas de pêche sont fixés par les autorités nippones de telle façon que les espèces ne soient pas en danger, ce que contestent cependant les ONG. Reste qu'ils ne sont pas non plus les principaux tueurs de baleines de la planète. Leurs quelques centaines de prises par an le long des côtes japonaises exclusivement sont bien loin des plus de 300 000 cétacés qui meurent chaque année dans les filets de pêche industrielle d'autres poissons, comme le rapportent des études universitaires américaines et l'Organisation de défense des baleines, Sea Shepherd.
Karine Nishimura de l'AFP à Tokyo pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde continue et quand il passe sous les radars, Amélie Perriel-Radkamp. Amélie, des attaques xénophobes dans la nation arc-en-ciel.
On part ce soir en Afrique du Sud, secouée ces derniers mois par des violences d'une rare gravité. La nuit dernière encore, à Johannesburg, la plus grande ville du pays, eh bien, on a vu des pillages parfois très violents. Alors ici, un reporter du média Eyewitness News filme les forces de l'ordre en train d'arrêter des pilleurs. Pendant plusieurs heures, hier, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont saccagé le reste et incendié les boutiques dans plusieurs rues du centre de Johannesburg, un quartier défavorisé. Plus loin dans la vidéo, on voit la police tirer dans la rue, des balles en caoutchouc apparemment, image d'émeute urbaine ultra-violente, au moins 70 arrestations. On parle quand même ce soir de 5 morts. La cible de ces attaques, eh bien, ce sont les étrangers. Ce sont des violences xénophobes contre les communautés immigrées, accusées d'être responsables du taux de chômage record. 29%, vous avez bien entendu, 29% de la population sud-africaine est au chômage.
This will never end.
Et voilà ce commerçant, Ambrose Osunde, immigré en Afrique du Sud, il dit « ça ne va jamais finir, ça revient tous les 6 mois, la solution c'est le travail. Ma société a 10 salariés, nous dit-il, 10 Sud-Africains, ils sont tous Sud-Africains, il y a juste moi et mon partenaire qui est au Nigeria. Alors qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse d'autre ? On crée des emplois, on vient pour créer des emplois pour eux, on ne leur vole pas le travail, on le crée. » Le transport routier est également visé par ces attaques. Les chauffeurs sud-africains sont en grève pour dénoncer l'embauche par les patrons d'étrangers sans papier et sous-payés. Plusieurs camions ont été incendiés, des routes bloquées autour du Cap. Et le problème devient diplomatique avec le Nigeria, dont une grosse communauté a émigré en Afrique du Sud. Le ministre nigérian des Affaires étrangères l'a écrit sur Twitter. « Ça suffit, nous allons prendre des mesures » et de dénoncer l'inefficacité de la police sud-africaine. Ce soir, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, condamne ces violences totalement inacceptable, dit-il.
Une décision de justice inédite à présent, un État condamné pour viol.
La Bosnie va devoir indemniser une femme violée pendant la guerre des années 90.
Ceux-là sont sauvés, provisoirement du moins. On les a parqués dans des hangars bétonnés destinés à abriter des avions militaires près de l'aéroport de Tuzla, l'une des 5 enclaves musulmanes restantes. Sur leur visage, l'angoisse, la fatigue, la peine. Même pas une esquisse de soulagement d'être encore en vie.
Alors voilà, c'est un reportage de France 2 en 1995 sur le drame de Srebrenica. 20 ans plus tard, en 2015, un tribunal de Sarajevo a condamné un militaire serbe de Bosnie à 8 ans de prison et a payé 15 000 euros de dommages pour ce viol considéré comme un crime de guerre. Plus de 20 000 femmes, surtout des bosniaques musulmanes, ont été agressées, violées pendant la guerre entre 1992 et 1995. Sur ces 20 000 femmes, elles ne sont qu'un millier seulement à recevoir une pension en tant que victime civile de guerre. Mais pour la femme dont nous parlons aujourd'hui, elle n'a rien perçu. Le coupable était insolvable et l'État de Bosnie s'en lavait les mains. La victime a donc saisi le comité contre la torture de l'ONU et a gagné. Elle obtient une indemnité, une assistance médicale et psychologique gratuite et l'obligation pour la Bosnie de lui présenter des excuses. Les autorités de Bosnie doivent aussi mettre en place un système d'indemnisation des victimes des crimes de guerre, dont les viols.
Et puis, ce n'est plus vraiment de la science-fiction et c'est même assez terrible cette histoire. Ça se passe en Chine, Amélie.
Oui, alors je vous parle souvent de séries. Mmh. Ici, ce soir, ça ressemble à Black Mirror.
Keep having these vivid dreams, like thinking weird things.
What sorts of things? Ici, c'est la bande-annonce de cette série dystopique, Black Mirror, hein, où les écrans et les nouvelles technologies prennent le contrôle sur nos vies. La Chine, déjà bien connue pour sa surveillance de la population, expérimente en ce moment ce qu'elle appelle le crédit social. Et là, c'est bien réel, hein, c'est plus de la fiction, un système de notation où les citoyens gagnent des points quand ils donnent leur sang, par exemple, ou pour un autre service à la communauté. En revanche, vous en perdez si vous promenez votre chien sans salaire ou si vous mangez dans le métro à Pékin. Une bonne note pourrait vous permettre de décrocher un poste de fonctionnaire ou une place en maternelle pour votre enfant. Et pour l'instant, les grilles de notation sont assez floues et dépendent des provinces, mais le système pourrait être généralisé dès l'an prochain. Bienvenue chez Orwell.
Ah bah dis donc, incroyable. Tiens, moi aussi je vais donner des points à tout le monde et des notes et ça va beaucoup moins rigoler ici.
Et là, on tremble.
Allez, Cigarette After Sex est dans la playlist de France Inter. Heavenly.
Coming to me.
En train de discuter tranquillement avec Julia Foy, c'était Cigarette After Sex, c'est dans la playlist de France Inter, ouais. Ça s'appelle Heavenly, et donc puisque Julia est là,
je croyais que vous
c'est
et
parti.
Moi.
France Inter. Un jour dans le monde.
Voilà, c'est tous les jours, la solidarité avec les femmes du monde entier, mais s'il y a un jour, c'est bien celui-là. Passons genre dans le monde, chaque semaine donc, des nouvelles des femmes sur la planète, et la planète LGBT d'ailleurs. On commence avec l'Autriche, et une bonne nouvelle, tiens, pour commencer, ça va nous changer, Julia.
Mais on va appeler ça une bonne nouvelle, parce que sinon, Fabienne, vous allez me dire que je suis jamais contente. Or, c'est vrai, l'égalité femmes-hommes est devenue un sujet, ce qui en soi est une bonne nouvelle, et je vous en mets une seconde, allez, parce que doucement mais sûrement, elle avance en ce moment. La preuve, donc, aujourd'hui, avec l'Autriche, où le congé paternité s'allonge, les pères peuvent désormais cesser de travailler pendant un mois pour s'occuper de leur nouveau-né. Mieux, la mesure concerne aussi les couples d'hommes et les couples de femmes. Youpi. Sur la durée du congé paternité, on est pas mal non plus. Certes, on est loin des 2 mois votés en Espagne tout récemment, mais c'est quand même mieux que chez nous, en France, où il n'est que de 11 petits jours. C'est connu, hein, en 11 jours, bébé fait ses nuits, tout va bien, tout est réglé, tout est plié. Cela dit, c'est encore grand luxe, 11 jours, quand on sait qu'en Suisse, le congé paternité n'existe pas. Non mais pas, ça vient pas, rien du tout. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on demande au père une fois la divine semence déposée, bah c'est rien, 0 jour, 0 couche, 0 biberon. Donc avec un mois en Autriche, on peut dire qu'on est bien. Le vrai souci, c'est que ce congé paternité reste parfaitement facultatif, contrairement au congé maternité qui, lui, est obligatoire. Toute la question était donc de savoir comment convaincre les pères de passer leur journée à récurer du vomi plutôt que de filer peinard au bureau. Eh ben, on a trouvé. Tiens, bingo, on leur donne 700 euros. Ouais, 700 euros, c'est l'indemnité maximale prévue par l'Autriche pour ce congé paternité. Alors, j'exagère peut-être, mais je voudrais pas avoir l'air de trop m'avancer comme ça. Mais à vue de pif, hein, Fabienne, je connais pas des millions de couples qui vont se dire « Allez, on reste en vase clos tous les trois. Pendant un mois, on perd en salaire, on dévie en termes de niveau de vie, mais au moins on est à 50-50, au moins on est un couple égalitaire, au moins le père prend toute la place qui lui revient, parce qu'un enfant, Fabienne, c'est quand même un papa, une maman, Non, ça marche pas. Un papa, une maman, c'est juste quand ça vous arrange et vous avez raison. Fabienne, je suis jamais contente.
Allez, on poursuit avec le jugement de la semaine.
C'est un juge britannique qui vient de refuser le statut de réfugié à un migrant homosexuel venu d'un pays où l'homosexualité est encore considérée comme un crime, un peine de prison, lapidation, ce que vous voulez. Étrangement, il ne se sentait pas hyper tranquille chez lui. Donc, il a fui en Grande-Bretagne, donc il a demandé l'asile et donc on le lui a refusé au prétexte qu'il ne faisait pas suffisamment gay. Et le juge de préciser, vous ne risquez pas d'être inquiété puisque vous n'avez pas de manières assez efféminées pour un gay. Et le juge d'ajouter, par exemple, bon, moi, j'ai déjà accordé le statut de réfugié à un homosexuel, hein, comme vous, mais lui, bah, au moins, il mettait du rouge à lèvres. Ah bah oui, forcément, t'as du rouge à lèvres, t'es gay, t'as tes papiers.
Allez, on termine avec le hashtag de la semaine où qui nous ramène au thème de notre journée spéciale sur France Inter. Jean-Marc Faure y reviendra d'ailleurs aussi à son tour derrière. Les féminicides et les grenelles sur les violences conjugales.
Hashtag une minute de silence pour elles. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir circuler. Vous avez dû les voir, hein, ces visages qui vous fixent droit dans les yeux. Vous avez peut-être vu passer ces vidéos. Écoutez bien, au son, ça donne ça. Voilà. Cherchez pas, on n'entend rien et en même temps ça dit tout, hein, une minute comme ça de silence ponctué par des soupirs, de tristesse ou de lassitude, je ne sais pas, sans doute les deux à la fois. Parce que parfois de longs silences sont plus efficaces que tous les grands discours, en tout cas ça marche, le hashtag se répand à vitesse grand V, les vidéos se multiplient en ce moment sur la toile, il y a fort à parier qu'il dépasse bientôt nos frontières. Mais en Turquie, en ce moment c'est un cri qui agite le pays, celui d'une mère poignardée dans un café par son ex-marié sous les yeux de sa fille. On est à Kirikale, à 70 km à l'est d'Ankara. La scène a été filmée, postée sur les réseaux sociaux, des milliers de fois partagée. On y voit, on y entend la gamine hurler « Maman, ne meurs pas, s'il te plaît ». On y voit, on y entend la mère s'étrangler « Je ne veux pas mourir ». Elle est morte, pourtant, sur le trajet qui l'a menée à l'hôpital. Le père, arrêté, écroué, s'est justifié. On parlait de la garde de la petite, elle m'a insulté, j'ai donné un coup de couteau. Voilà, logique, hein, un coup de couteau pour une insulte. L'affaire scandalise la Turquie où l'on compte plus de 200 féminicides par an. En une journée, la vidéo est devenue virale. Sur Twitter, un déluge de colère, des messages venus d'artistes, d'intellectuels, de sportifs, de monsieur, madame, tout le monde, des lambda, des vous et moi, tous reprenaient ce message-là. Arrêtez ça. Maintenant, nous ne nous habituerons pas. Non, nous ne nous habituerons pas.
Et précisément, en tout cas, certainement pas ce soir.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Et le monde à l'envers avec Jean-Marc Faure, précisément. Jean-Marc, à l'occasion du lancement du Grenelle sur la violence conjugale et de toutes ces séries d'émissions que nous faisons sur France Inter depuis ce matin, on finira tout à l'heure avec le téléphone sonne avec Marlène Schiappa. Vous avez choisi de regarder le sujet d'un point de vue extérieur, donc vu de chez nos voisins. La France est-elle vraiment un mauvais élève dans la lutte contre les violences conjugales? Ben, la réponse est ouais, plutôt pas terrible en fait.
Alors il faut être prudent quand même parce que les comparaisons sont difficiles à établir entre les différents pays, les chiffres manquent, parfois les classifications ne sont pas les mêmes. Un seul exemple, certains pays ne comptent dans les violences conjugales que celles commises par le conjoint marié. Si on n'est pas marié, ça compte pas. Bon, cela dit, quelques faits émergent malgré tout. D'abord au niveau mondial, c'est un fléau majeur, au moins 50 000 féminicides par an commis par des membres de la famille, le plus souvent le partenaire, et plus de 20% des femmes ont subi une agression physique dans le monde au cours des 12 derniers mois, c'est énorme. Le pire, c'est en Russie, en Amérique centrale, en Afrique du Sud. Maintenant, si on prend des pays comparables, essentiellement des pays européens, c'est vrai que la France est plutôt en retard, le bilan est médiocre. Premier critère, le nombre de féminicides par an, entre 120 et 130, seule l'Allemagne fait pire. Deuxième critère, plus révélateur, la proportion de féminicides rapportée à la population globale. Alors la cata, c'est dans certains pays de l'Est de l'Europe, comme la Hongrie ou la Roumanie. Mais après, la France est mal classée et la situation est assez nettement meilleure, ou moins pire, en Grande-Bretagne, en Italie, en Grèce, où le taux de féminicide est deux fois moindre qu'ici. En Islande, on en est carrément à zéro. Zéro meurtre. Le plus préoccupant en France, c'est que la situation ne s'améliore pas. Elle aurait même tendance à se dégrader. 120 féminicides l'an dernier, déjà plus de 100 cette année en l'espace de 8 mois, alors que chez plusieurs de nos voisins, ça s'améliore.
Et alors précisément, le meilleur exemple, on en parle beaucoup, c'est l'Espagne.
Oui, l'Espagne a pris le sujet au sérieux depuis une quinzaine d'années, après notamment l'affaire Ana Orales du nom d'une femme brûlée vive par son mari en 1997. Résultat, le nombre de féminicides a quasiment diminué de moitié, seulement entre guillemets, 47 l'an dernier, c'est déjà trop évidemment, mais la baisse est régulière. Et c'est d'abord la conséquence d'un arsenal répressif, c'est-à-dire que la peur du gendarme fait reculer les violences faites aux femmes. L'Espagne n'est d'ailleurs pas le seul pays à avoir durci son arsenal répressif. Par exemple, l'Italie vient de doubler un certain nombre de sanctions pénales et de rendre impossible toute remise de peine en cas de féminicide. Alors à Madrid, en effet, on est allé beaucoup plus loin, en particulier sous l'impulsion du gouvernement Zapatero à partir de 2004. Une loi organique a été votée pour en faire une grande cause nationale. Elle a créé des tribunaux spéciaux avec des compétences pénales spécifiques et une réactivité forte. Pas moins de 106 cours spéciales ont été mises en place dans le pays et elles traitent exclusivement des violences faites aux femmes par leurs conjoints. Le recours au bracelet électronique a été généralisé, 7000 installés en 10 ans, pour garantir l'éloignement des conjoints violents. Et puis, il n'y a pas de secret, les moyens ont été débloqués. 220 millions d'euros au budget de cette année en Espagne, c'est 3 fois plus que la France.
Alors, ce n'est pas seulement une histoire de répression, hein, c'est aussi une histoire, une prise en compte sociale.
Oui,
en fait.
Oui, c'est ça. Il y a d'ailleurs une convention internationale sur le sujet, la convention d'Istanbul, qui a été signée il y a 2 ans par l'Union européenne et qui met l'accent notamment sur la nécessité de la prévention et de la formation. Ça veut dire quoi si on reprend l'exemple espagnol? Ça veut dire, l'inventaire est parlant, un réseau d'assistance psychologique partout dans le pays, une plateforme téléphonique gratuite évidemment, des aides au déménagement pour les femmes victimes de violences, il y a déjà eu plus de 3000 prises en charge en Espagne, des femmes gardes du corps d'autres femmes dans certains cas, des pensions pour les éventuels orphelins en cas de féminicide. Ça veut dire aussi un énorme travail de formation des magistrats, des policiers, des médecins avec des modules de 50 heures de formation. Alors attention, hein, tout n'est pas parfait en Espagne, hein, le machisme hérité du franquisme est encore bien présent dans toute une partie de la société. L'extrême droite veut remettre en cause tous ces plans. Et puis, citons aussi d'autres axes d'action évoqués par des rapports de l'ONU. L'importance de sensibiliser les garçons dès le plus jeune âge, la nécessité d'améliorer l'indépendance économique des femmes par le travail et le rôle d'éducation et de mobilisation. De qui ? De nous, les médias.
Et c'est nous, en effet. Merci beaucoup Jean-Marc Four. Le Monde à l'envers, c'est tous les jours. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne avec Marlène Schiappa et puis le journal de Sébastien Pahor juste avant.